grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast, régulièrement le vendredi désormais. Je vous propose une émission consacrée aux loisirs et à la maison. Et pour ce premier numéro, on parlera des jardins, des arbres, des plantes qui ont sacrément souffert de la canicule et de la sécheresse. Comment sauver ce qui peut l'être encore? Le spécialiste Philippe Collignon, professeur d'horticulture, nous délivrera quelques conseils. On verra également ce qu'il faut planter en ce moment dans son potager. Zoom également sur deux fruits de saison, le raisin et la figue, en compagnie de la journaliste Nathalie Elal. Gavins Clemente Ruiz du Routard nous proposera quelques destinations pour ceux qui partent en septembre. Ça concerne un quart des Français. Des conseils qui valent également pour ceux qui veulent partir le week-end pour bien déconnecter. Nous irons en Anjou et dans le Mercantour, et puis nous évoquerons quelques meubles et objets de décoration vintage très en vogue avec la cofondatrice d'un célèbre site de brocante en ligne, Charlotte Cadet. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos experts au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Et c'est le retour de la dame du vendredi. Il y avait les dames du bois de Boulogne et il y a la dame du vendredi. Ben, c'est le titre du film de Bresson.
Non, voilà. Mais bien sûr, mais loin de moi l'idée.
Guillemette Audicino et son esprit d'escalier.
Mais bonjour Ali, alors escalier évidemment vintage.
Exactement.
En fer forgé, avec un peu de bois et avec du lierre qui grimpe dessus.
Pas trop triste qu'Éric Ribiot ait déménagé le mardi.
Ah mais je suis désespérée, je retiens mes
larmes. Mais il reviendra de temps en temps quand même le vendredi.
Puis alors, lui, en termes de vintage, il aurait été parfait.
Oui, avec ses fameux gilets à poche évidemment. J'ai construit ce programme pour vous. De la figue, du raisin et des objets vintage. Vous êtes heureuse ?
Je suis très très heureuse. Très bien. Ça compense l'absence de Libio.
Allez, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebéi.
Bienvenue à nos invités qui inaugurent ce Grand Bien Vous Fasse loisirs et maison. Bonjour Philippe Collignon.
Bonjour Ali.
Professeur d'horticulture de formation, chroniqueur à Télématin sur France 2. Vous avez notamment publié Le potager pour les nuls chez First et vous avez créé un jardin très mystérieux que j'ai vu en photo, je ne l'ai pas encore vu en vrai, au Festival international des jardins à Chaumont-sur-Loire qui se tient jusqu'au 3 novembre. On en dira quelques mots tout à l'heure. Bonjour Nathalie Elal.
Bonjour Ali.
Écrivaine et journaliste passionnée d'histoire des arts de la table et de l'alimentation. Vous êtes notamment chroniqueuse dans Histoire Magazine et vous êtes l'auteur, l'autrice, je ne sais pas comment vous voulez que
je le dise. Ah non, j'aime pas
dise.
Autrice.
Bon, l'auteur.
Non, parce que ça fait bizarre, je trouve, autrice. Non, j'aime bien auteur.
Oula, vous allez recevoir du courrier, oulala.
Bon. Oui, non. Bon, alors j'assume complètement.
L'auteur de nombreux livres autour de la gastronomie. Vous évoquerez tout à l'heure un fruit que je n'aime pas du tout, la figue.
Je vous le ferai aimer,
Bon, vous allez essayer. Bonjour Gavins Clemente
Ruiz,
responsable du développement au guide du Routard. Vous revenez tout émerveillé de vos vacances en Grèce. On ne partira pas en terre Hélène, mais on découvrira tout à l'heure avec vous un très beau village d'Anjou, le Toureil. Bonjour Charlotte Cadet.
Bonjour Ali.
Co-fondatrice d'un site dédié à la brocante, Célency. Vous publiez chez Marabout, Il n'y a pas d'âge pour le vintage. C'est un livre pour décrypter les styles, les designers et les objets qui ont fait de la déco vintage un art de vivre à part entière. J'ai bien lu la quatrième de couverture, mais pas que. Vous verrez que j'ai vraiment exploré votre livre qui est absolument passionnant et assez rigolo. Alors, on les appelle les septembristes. Ouais. C'est un mot très moche, Gavins Clemente Ruiz. Ça désigne ceux qui partent en vacances en septembre. Ils sont de plus en plus nombreux.
Oui, de plus en plus nombreux.
Plus de 7 millions de Français, je crois.
Plus de 7 millions, exactement. Vous avez tout à fait raison. Septembristes, en effet, c'est pas très joli, c'est pas très heureux. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants.
Oui, c'est ce que j'avais dit.
Puis déjà, c'est pas nous parce qu'on est tous là autour de la table. Alors, c'est souvent des personnes célibataires, ce sont des retraités qui, ou alors on a vu aussi que ce sont des familles qui ont décalé, qui ont demandé à la directrice ou au directeur de décaler d'un petit peu, de quelques jours. Ouais, ça existe pour pouvoir offrir à leurs enfants des vacances parce que ça coûte moins cher et qu'ils n'ont pas, parce que ça coûte quand même assez cher. Et donc souvent on a le cas. Donc voilà, ce sont plusieurs cas de figure.
Il y a moins de monde.
Et il y a moins de monde.
La génération,
c'est moins cher.
Oui, c'est moins cher. Et puis la génération du baby boom habituée à voyager, qui prend massivement sa retraite là pendant la décennie 2010, ça sera encore plus le cas dans la décennie 2020. Et ben, elle prendra de plus en plus ses vacances en septembre.
Et c'est le bon moment en plus. Hein. Il fait un tout petit peu moins chaud. Il y a plus de place pour tout le monde. Donc franchement, c'est l'idéal.
Sur l'été, vous avez des indicateurs un petit peu sur les grandes destinations cartonné.
J'ai un indicateur, c'est le courrier des lecteurs. On le voit, nos routards qui arrivent là. Ça arrive sur mon bureau. Ouais. On voit. C'est le pourtour méditerranéen, c'est vraiment le succès, on va dire que c'est le best-of. C'est la Grèce, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, et c'est le Portugal qui marche toujours très très fort, et la Corse, bien sûr, en France, c'est la destination numéro 1.
L'avantage, on l'a pas dit, l'un des avantages de partir en septembre, c'est tout simplement moins de touristes dans les destinations fréquentées, surfréquentées.
Surfréquentées, et alors, ça c'est sûr, il y a l'espace qui est offert, qui vous faites plus la queue pour attendre votre billet, pour aller voir tel monument, donc ça c'est assez sympa. Vous n'êtes pas sous le cagnard aussi, parce qu'il fait un tout petit peu moins chaud. Si on aime ça, tant mieux. Et après, il y a l'avantage des prix, hein, surtout. On le disait, les billets d'avion peuvent coûter moitié moins cher quand on voit le tarif que ça coûte. Donc sur un budget vacances, c'est vrai que c'est vraiment à
attention
considérer.
Parce que vous parliez des célibataires qui partent massivement en septembre. Il faut savoir que les célibataires payent plus cher leurs vacances, leurs chambres d'hôtel, notamment.
On paye une single pour et alors qu'on a une double, hein, mais oui, parfois en effet ça peut être
ça peut. Comment ça s'explique ça déjà?
C'est parce que alors il y a des tarifs adaptés en single, hein, faut pas exagérer, on paye
en chambre
paye
simple,
pas, ouais, en chambre simple, on paye pas une double, mais c'est un tout petit peu moins cher. Mais vous payez l'occupation de la chambre tout simplement, hein, ça pourrait être vendu pour deux personnes, donc pourquoi pas.
On reviendra tout à l'heure sur les deux destinations que vous nous conseillez pour le mois de septembre. Alors je sais pas vous, Guillemette Odissino, mais j'aime bien ce parfum d'arrière saison en septembre, partir en septembre.
Ah bah d'abord ça s'appelle l'été indien, donc ouais. Déjà il y a tout marqué à l'intérieur. L'été indien c'est magnifique. Cette chose de la météo est importante. C'est-à-dire on a l'impression en fait de partir en vacances au printemps. C'est-à-dire c'est pourtant la fin de l'été et il y a quelque chose du regain. C'est-à-dire cette douceur de la météo donne une autre impression saisonnière. Et puis c'est le moment aussi en fait où les destinations dont vous parlez, il y a moins de monde qui va, mais on a aussi d'autres idées de destination. Alors, je peux dire un truc.
Allez-y.
Parce que ma fille a eu son anniversaire, là, il y a très peu de temps. En fait, en vrai, aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Ah, bon anniversaire, oui, fille de Guillemette Odissino.
Fille de Guillemette Odissino, mais comme évidemment les adolescents.
Dites son nom, prénom.
Joyeux anniversaire, Fanny.
Voilà.
ça, c'est fait. Mais, voilà. Mais évidemment, le week-end même, on fait des trucs avec les copines, etc. Donc, j'ai eu envie de lui offrir une petite chose marrante le week-end précédent. Et je me suis mise sur Internet en me disant qu'est-ce que je pourrais faire de drôle. Alors j'avais pas le temps d'aller dans le Mercantour, hein, d'autant que ma fille met beaucoup de temps à s'habiller. Vous voyez, c'est une jeune fille, donc ça n'allait pas. Et j'ai trouvé un truc dingue. Mais c'est aussi ça, une destination folle, comme ça, au Débeauté en septembre. Il y a deux sites, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont du même domaine, qui s'appellent Staycation ou Very Chic. Vous tapez, vous dites j'ai envie d'aller dans un palace parisien. Et tout d'un coup, on vous dit, ce soir, chère madame, tel palace de 5 étoiles vous offre une chambre à moins 50%. Pardon ? Donc, comme ça, on a pris deux culottes, deux brosses à dents, etc. Et on s'est retrouvés dans une chambre 5 étoiles, avec un service absolument incroyable. Ma fille n'en revenait pas. Le petit déjeuner du lendemain, il a fallu que je la tire par les cheveux parce qu'elle était accrochée au buffet. Et c'est comme ça, c'est au Débeauté, c'est en un claquement de doigts. Ça peut être un hôtel sur la Côte d'Azur, ça peut être un club de vacances très cher mais qui brade ses prix parce que justement les chambres sont inoccupées ou parce que justement on est en fin d'été et en septembre. Et c'est une petite magie soudaine.
Gavin Sclement-Ruiz.
Petite magie soudaine, je rebondis. Il y a un côté aussi, le décalage. Tout le monde est rentré, tout le monde travaille et nous, on est au bord de la plage.
Ma fille m'a dit, j'ai l'impression d'être en vacances à Paris, alors qu'on y habite.
Hein. Et oui, le plaisir de partir à contre-courant. Alors septembre, et puis ce parfum de figue qui flotte sur les étals des marchés, Nathalie Hélal. Alors je déteste la figue. Alors donnez-moi une bonne et saine raison d'en déguster.
Je vais vous en donner au moins trois, mon cher Ali. Alors en effet, vous détestez tester les figues, mais vous avez tort, parce qu'il y a beaucoup de testostérone dans la figue. Alors, pour tous les mâles qui nous écoutent, mangez donc des figues.
Et il y en a. C'est prouvé scientifiquement, ça?
C'est prouvé scientifiquement. Je vais vérifier. Ensuite, pour nous, les femmes aussi, et puis pour les hommes, hein, pourquoi pas, eh bien c'est un excellent anti-rides naturel. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est bourré d'antioxydants, faut le savoir. Donc, ça améliore l'élasticité de la peau. Ça, c'est la deuxième bonne raison. Et puis, si vous êtes un petit peu sportif, eh bien la haute valeur énergétique de la figue va vous aider, et c'est Platon, le philosophe, qui en raffolait, qui le disait, et comme vous adorez la philosophie, mon cher Ali, on y va, on mange des figues, plein pot.
Alors, comment reconnaît-on une bonne figue ?
Une bonne figue, eh bien, elle a un habit un petit peu ridé, mais surtout pas fripé. Elle a aussi une sorte de goutte qui perle à l'ostiole. Voilà, on dit que c'est un peu l'œil de l'ivrogne, si vous voulez. Et puis on dit aussi qu'elle a un coup de dévote, c'est-à-dire qu'il retombe un peu. C'est un petit peu particulier la description. En tout cas, elle doit être
souple. Ça
me
fait penser à quelqu'un, mais... Je dirais pas
noms,
qui.
Des noms. Elle doit être souple et en même temps ferme. Il faut surtout que le sucre ressorte. Et ça, on le voit quand elle est bien mûre. Et elle se marbre de plein de gouttes blanches qui perlent. Et ça, c'est vraiment extraordinaire sur les marchés quand on a la chance de trouver des figues comme ça.
Quelle est l'histoire de la figue ?
Alors, une histoire incroyable parce que dans l'Ancien Testament, son nom apparaît déjà. Et c'est même le premier arbre dont parle la Bible. Parce que après qu'Adam et Ève aient mangé le fruit défendu, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus et ils se fabriquent des ceintures de feuilles de figuier pour se cacher, pour cacher leur nudité.
C'est pas des feuilles de vigne.
Et non, c'est les feuilles de figuier. Et c'est un symbole fort d'abondance et d'initiation parce qu'on raconte que les anciens prêtres égyptiens en mangeaient pendant la cérémonie qui les consacré prêtre, et que les premiers ermites du désert s'en nourrissaient eux aussi. Et puis il y a un nom un petit peu rigolo, le sycophante. Est-ce que vous savez ce qu'est un sycophante ?
Non, vous allez me le dire.
C'est le nom de tous les délateurs, de tous les dénonciateurs politiques. Il y a une raison à cela, parce que les Grecs adoraient les figues, à tel point qu'il était même interdit à une époque de les exporter. Et donc les coupables étaient punis d'une amende dont profitaient leurs délateurs, d'où leur surnom, et par extension celui de tous les dénonciateurs politiques, les sycophantes, étymologiquement, ceux qui montrent les figues.
Alors, quelles sont les différentes variétés de figues ?
Il y en a énormément. Je pensais qu'il y en avait 150, j'ai découvert qu'il y en avait 700 en réalité. Alors, il y a des blanches, il y a des vertes, il y a des noires, il y a des grises. Et figurez-vous, j'ai trouvé un truc incroyable en faisant des recherches hier. Sous la dalle d'Argenteuil, imaginez-vous, Argenteuil, il y a 100 ans encore, en région parisienne, parce qu'on croit toujours que la figue, c'est la Provence, eh bien pas du tout. Argenteuil était connu pour ses asperges, pour son vin, mais aussi pour ses figuiers. Il y avait 50 hectares de figues extraordinaires à Argenteuil, qui étaient connues dans toute la France, qui ressortaient sur tous les marchés parisiens, et je crois qu'il y a encore quelques chanceux particuliers qui en ont dans leur jardin, des figues.
Alors comment cuisinez-vous les figues ? Vous êtes plutôt salé, sucré ?
Alors moi, je suis très bec sucré. Mmh. Cela dit, la figue se marie extrêmement bien avec le porc, la pintade, le lapin, avec une petite salade de roquette et des morceaux de chèvre frais, par exemple, et du jambon cru, ça c'est excellent. Sinon, dans des cakes aussi, donc chèvre, figue, ça marche très très bien. Avec un rôti de porc un peu en cocotte, ça tombe très très bien. Et puis sinon, l'incontournable de l'été, la tarte aux figues, de la fin de l'été.
Est-ce que vous auriez l'immense bonté, pour Guillemette Audicino et nos auditeurs, évidemment, de nous communiquer votre recette de tarte aux figues ?
Dans mon immense bonté, je vais le faire. Alors, pas de sucré maison, s'il vous plaît, ou sablé maison. Et puis alors, l'astuce toute bête qui marche avec plein de fruits. Vous mélangez 100 g de beurre en pommade avec 100 g de poudre d'amande, un petit peu de sucre. Moi, je mets 50 g maintenant de sucre blond de canne. Je mélange tout ça, j'ajoute un œuf. Donc ça fait un petit mélange un petit peu compact qu'on va étaler sur le fond de tarte et qui va éviter aux fruits de détremper ce fond de tarte. On met ces figues coupées en quatre, joliment, artistiquement déposées sur le fond de tarte. On passe au four et à la sortie du four, sirop d'agave au pinceau, s'il vous plaît, Ali.
J'en mangerai presque. Guillemette Audicino, vous, c'est l'odeur de la figue qui vous enchante.
Oui, c'est l'odeur de la figue. D'abord, c'est un parfum d'enfance. Alors, bon, pardon, mais moi, effectivement, c'était dans un jardin méditerranéen où il y avait des figuiers. Et ce petit lait blanc de figue, c'est une odeur qui me poursuit. Et vous avez constater, Ali, maintenant, c'est vraiment la mode. Alors, les bougies à la figue, partout.
Mais alors, pas chez moi.
Il y a bougie à la figue et bougie à la figue.
On est d'accord.
Là, je ne citerai pas de marque, mais bon, je n'en pense pas moins. Et les parfums à la figue. C'est-à-dire que ça devient presque un jeu dans un club assez fermé, il faut dire, mais de personnes qui disent ça y est, dans telle marque de parfum, ils ont enfin créé un truc à la figue. Et c'est une odeur Proustienne. Je ne sais pas comment vous dire, c'est proustien l'eau dans le figue.
Nathalie Hélal, ça se termine quand, la saison de la figue?
On a jusqu'à à peu près la mi-octobre. Ça a commencé déjà, évidemment, en Provence beaucoup plus tôt. Là, elle commence à apparaître sur les marchés. Il y en a une qu'il ne faut surtout pas louper. Mmh. C'est la violette de Solies. Alors, très chère, mais géniale. Une figue noire magnifique.
Tiens, Philippe Collignon, pouvez-vous nous décrire un figuier, le ficus carica, originaire d'Afghanistan et de Syrie? Ça ressemble à quoi, un figuier?
Ben c'est avec des petites feuilles deltoïdes, mais c'est vraiment très intéressant. Mais je voulais revenir un petit peu sur la figue parce que vous parliez du latex blanc. Faire attention avec ce latex blanc parce qu'il est photosensible. Mm-hmm. Et il y a eu cet été des enfants qui ont été brûlés avec ce latex blanc. Donc ne pas jouer avec, ne pas s'en mettre sur la peau et surtout s'exposer au soleil comme des huiles essentielles, notamment à base d'agrumes, qui sont aussi photosensibles et qui peuvent brûler la peau ad vitam aeternam, c'est-à-dire avec une trace à vie.
On reviendra tout à l'heure, Philippe Collignon, sur la sécheresse qui a affecté beaucoup d'arbres, de jardins, de plantes cet été. Mais avec la sécheresse, est-ce que les figuiers dans le nord de la France, ce sera de plus en plus possible dans les années à venir?
On cultive, on récolte de la figue maintenant dans toute la France, Bretagne, dans le Nord, à Lille, etc. Il y a des variétés qui sont adaptées aujourd'hui.
Je pensais que c'était circonscrit au sud
non,
de la France.
Maintenant, c'est toute la France. Alors, pour cultiver de la figue, un figuier, il faut le mettre contre un mur. Souvent, on s'est aperçu dans les maisons, dans le midi, dans le climat méditerranéen, on met toujours un figuier contre un mur ou contre une maison. Pourquoi? Parce que le mur va absorber la chaleur et redonner cette chaleur la nuit au figuier, d'où l'intérêt d'avoir de belles figues qui arrivent à maturité avant les premières gelées.
Allez, toutes vos questions à nos experts au 01 45 24 7000. Claire Destacan, Clara Marliot et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation, Stéphanie Texier. Alors, on écoute un titre de 1966. Cette année-là naissait la romancière Amélie Nothomb et mourait le génie comique Buster Keaton. Belle journée à l'écoute de France Inter. Must you keep rolling, flowing into the night? People so busy, make me feel dizzy. Taxi light shines so bright, but I don't need no friend. As long as I gaze on Waterloo sunset, station every Friday night, but I am so lazy, don't want to wonder, I stay at home at night, but I don't feel afraid, as long as I gaze on Waterloo sunset. Qu'est-ce que c'est bon les Kings, Waterloo Sunset.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h26, c'est une émission consacrée à la maison et aux loisirs. Vos questions à nos experts et vos réactions au 01 45 24 7000.
Avec l'arrêté municipal qui interdit d'arroser du matin au soir, Bruno ferme à contre-cœur son robinet. D'habitude, ses cuves de récupération d'eau de pluie sont pleines, mais aujourd'hui, elles sonnent creux.
C'est la première fois. Hein.
Ce retraité de France Télécom jardine à Poitiers depuis plusieurs décennies.
J'ai plus jamais vu ça. Hein. Ça, c'est des haricots verts, mais là, bon, ça peut être arrosé, c'est nul. Jean-Pierre, il faut cueillir les cornichons. Hein.
Son copain de jardin, Jean-Pierre, est médecin, mais il ne peut plus rien faire pour les cœurs de bœuf.
Les tomates, c'est un peu rabougri.
Avec cette chaleur, Bernard, le voisin, lui, se prend le chou.
J'en ai plein les bretelles.
Cette canicule, c'est la défaite d'Austerlitz pour son cerisier Napoléon, une variété de cerises Bigarro à chair blanche.
Et alors avec la sécheresse, elles arrivaient à maturité, la chaleur est venue, elles ont séché sur place. Ça les a cuites.
Extrait d'un reportage sur France Inter le 23 juillet dernier, reportage de Jules Brélaz. Philippe Collignon, spécialiste des jardins et des potagers dans Télématin sur France 2. Y a-t-il des essences qui ont plus souffert que d'autres ?
Toutes les essences un petit peu exotiques qui ne sont pas indigènes ont souffert. C'est-à-dire, vous voulez une plante qui n'est pas adaptée forcément à votre climat, bah, là, elles ont souffert. Vous avez des plantes en pot, elles ont vraiment souffert si vous ne les avez pas mis à l'ombre. Voilà. Et puis, il y a les arbres aussi qui ont souffert dans toute la France.
Il y a des régions qui ont plus souffert que d'autres.
L'Est a été particulièrement touché. On se dit l'Est, oui, c'est pas au Sud, mais l'Est a été particulièrement touché parce que la forêt vosgienne a été vraiment impactée cette année. 10% des arbres sont morts. Donc, ils sont vraiment morts. C'est-à-dire, ils ne vont pas revivre. Ils sont même pas secs. Ils n'ont pas perdu leurs épis. 10% de la forêt s'est éteinte dans les forêts vosgiennes. Avec une sécheresse qui commence en février 2019, mais aussi avec ce qui s'est passé avant. Donc, les nappes phréatiques sont sèches. Et donc, une partie de la forêt. Parce que la forêt, c'est pas qu'un arbre. C'est l'arbre qui cache la forêt. Une forêt, c'est un être vivant à part entière avec une multitude de mélanges racinaires. On a parlé de l'intelligence des arbres. On a parlé de tout ça. Donc, il y a vraiment une conscience dans la forêt, et cette conscience, c'est pas l'arbre unique, c'est l'ensemble. Donc, une forêt se départit de certains arbres, les plus faibles vont commencer à disparaître.
Philippe Collignon, que se passe-t-il quand une plante, un arbre souffre de la chaleur? On appelle ça le stress hydrique, c'est ça?
Exactement, on appelle ça le stress hydrique. Alors, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il réduit sa transpiration. Donc, nous, on transpire beaucoup, mais l'arbre va réduire sa transpiration. Il va fermer ses petites cellules, des stomates, tout simplement pour réduire la transpiration. Certains vont commencer à perdre des feuilles. On l'a vu dans les grandes villes de France. Eh bien, il y a parfois un automne précoce. Vous avez plein de feuilles en plein mois de juillet, en plein mois d'août. C'est pas normal. Non, l'arbre se déleste de ses panneaux photovoltaïques naturels pour limiter sa transpiration. Et puis, les arbres vont développer plus le système racinaire pour puiser un peu de fraîcheur ou un peu d'eau qui traîne à droite ou à gauche.
Et puis, les arbres centenaires ne sont pas du tout adaptés au réchauffement climatique que nous vivons.
Non, ils souffrent beaucoup. On le voit quand on coupe un arbre avec les fameux anneaux plus ou moins écartés selon les années qui ont été riches en eau ou pauvres en eau, les arbres centenaires souffrent beaucoup. C'est pas parce qu'ils sont grands qu'ils sont solides. Donc des cèdres, etc., souffrent également de cette sécheresse.
Et puis par exemple, un hêtre n'est pas fait pour subir des canicules répétées de plus de 40 degrés. Et encore, 35 degrés, c'est vraiment limite.
Et on le voit vraiment en Suisse cette année parce que les hêtres ont vraiment subi un fort aussi impact de sécheresse en Suisse. Il y a des hêtres qui ont disparu.
Alors à terme, est-ce qu'il faudra planter de nouvelles essences d'arbres plus résistantes à la chaleur, à la canicule, dans le nord du pays notamment?
Alors il y a eu une première alerte en 99 avec la fameuse tempête. Là, ce n'était que le vent. On s'est aperçu que les forêts qui étaient monospécifiques, c'est-à-dire plantées uniquement d'une seule variété d'arbres, c'était couché. Les forêts qui étaient plantées de d'arbres et d'essences diverses, de caducs, de feuillus, étaient plus ou moins restées debout. Donc demain, aujourd'hui les forêts elles sont gérées un peu comme un champ de blé. On plante une variété de conifères, d'épicéas, etc. Et puis c'est coupé 20 ans, 30 ans plus tard. C'est géré un petit peu comme ça. Aujourd'hui, il va falloir gérer la forêt différemment, c'est-à-dire qu'il va falloir mélanger les espèces, remettre un peu de biodiversité dans tout ça. Peut-être, si on veut avoir des variétés monospécifiques, planter moins dense, plus clair, de manière à ce que les arbres puissent avoir tous besoin d'eau.
Alors, il faut rappeler que l'avenir de notre planète dépend évidemment de la santé des arbres, que les arbres captent le carbone que nous émettons massivement. Est-ce que la situation catastrophique que nous vivons est réversible ?
Alors, il va falloir... En France, on est quand même bien pourvu en forêt. On n'est pas un pays en déforestation.
Parce que moi, ce que j'ai vu cet été en forêt de Fontainebleau m'alerte... Vraiment, enfin, j'ai vu des chênes et des hêtres qui sont vraiment très mal en point ou qui sont morts.
Alors,
tout simplement.
Il y a plusieurs possibilités. je disais, 10% d'arbres morts, ils ne vont pas repousser. Il ne va pas y avoir une pousse à la base, donc ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à la place? Est-ce qu'on va replanter ou pas, hein? Qu'est-ce qu'on va replanter? Et puis, les arbres qui ont souffert de la sécheresse, parce qu'ils ont souvent souffert de la sécheresse, ils sont en système de fragilité. Cette fragilité va se matérialiser comment? Les arbres les plus faibles vont être attaqués par des insectes, qu'on appelle des scolytes, qui font des galeries et qui vont s'attaquer à leur bois. Donc en fait, voilà, bien que l'arbre soit encore là présent, il peut, dans les prochaines années, petit à petit, être grignoté par des parasites parce qu'ils sont devenus faibles. Un peu comme nous, quand on manque de vitamines, eh bien on attrape tout ce qui passe. Eh bien l'arbre, c'est pareil. Si on affaiblit un arbre, si l'arbre s'affaiblit à cause de la sécheresse, eh bien il sera attaqué peut-être par des insectes xylophages ou autres.
Concrètement, que faire quand les arbres de son jardin, les arbustes, les plantes ont souffert? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors souvent, on a tendance à dire « bon, c'est mort, j'arrache ça, je coupe ça ». En fait, il faut patienter, il faut tailler ce qui paraît sec, on peut gratter un petit peu pour voir si c'est encore vert ou si sec. Ensuite, on taille ce qui est mort, ce qui est sec, etc. Ensuite, si on peut encore arroser, on est encore dans une période difficile d'arrosage en France, on peut le faire, on gratte le sol. Gratter le sol, c'est, on se dit souvent, un binage vaut mieux que deux arrosages. C'est-à-dire un grattage vaut mieux que deux arrosages. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous ne grattez pas, vous avez une croûte de battance, une sorte de croûte assez dure à la surface, et cette croûte va tirer encore plus l'eau qui est présente dans le sol. Donc en cassant la croûte, entre guillemets, vous allez économiser.
Je me suis réveillée.
Nathalie est là, vous l'avez réveillée.
C'est pour ça que je voulais la réveiller. Je lui ai dit, pas casser la croûte. Et puis, il va falloir pailler. Pailler, c'est-à-dire qu'on va mettre un paillage naturel. Ben non, on en parle de plus en plus, mais ça devient presque obligatoire, c'est-à-dire mettre quelque chose.
Expliquez-nous.
Ou alors, on peut mettre du paillage de lin, c'est-à-dire que ce sont des déchets végétaux qui ont été broyés et que l'on met sur la surface du sol. Plusieurs intérêts. Un, on réduit l'arrosage. Deux, on évite la déstructuration du sol par des fortes pluies battantes.
Ça empêche que quand le sol, enfin, nos bosquets l'érosion. Se cassent la gueule.
Oui. L'érosion.
Oui, dans les jardins.
Trois, c'est bien pour la biodiversité
parce
que. Alors, ce qui est pénible, c'est quand on met un paillage, vous avez toujours des merles, etc., qui viennent gratter. Pourquoi? Parce que les vers de terre, ils adorent ça. On leur permet de conserver un petit nid, une petite fraîcheur.
Hors antenne, vous nous conseillez d'arroser les arbres, non pas au pied de l'arbre, mais loin de...
À l'aplomb des branches.
Exactement,
c'est-à-dire
voilà.
Que souvent on se dit voilà, on va arroser au pied du truc quoi. En fait non, les racines actives, il y a des racines qui sont des canaux, puis il y a des racines actives avec des petites radicelles. Ces racines actives, elles sont à l'aplomb des arbres, c'est-à-dire que vraiment à la surface extérieure de l'arbre, c'est là où il faut apporter les minéraux. Les engrais pour lui donner un peu de douce, l'arrosage. Et souvent, on fait des petits trous avec un pieu à l'aplomb des arbres de manière à arroser plus efficacement son arbre.
Philippe Collignon, qu'est-ce qu'on plante en ce moment dans son potager?
On peut planter pas grand-chose parce que vu la sécheresse, il faut arroser. Donc, mais sinon, c'est la saison de planter les choux, le cerfeuil, encore des radis de 18 jours. On peut s'amuser aussi à planter aussi des plantes que l'on va couper en vase. Souvent, on se dit, voilà, on plante dans un massif. Et après, on va faire un bouquet, on va dire, mais si on taille ça dans le massif, ça va être moche, le massif. Non, on se crée un petit coin dans le potager avec les tulipes, par exemple, et d'autres plantes bulbeuses de printemps.
Et un conseil fondamental avec son potager, c'est faire tourner les cultures.
Ah, il faut absolument pratiquer la rotation des cultures.
Pourquoi?
C'est-à-dire que même les agriculteurs le font, parce que si vous plantez des tomates sur des tomates chaque année, sur des tomates et des tomates et des solanacées, ou même de la pomme de terre qui était aussi une solanacée, eh bien, vous allez enquister des maladies et toutes vos tomates, toutes vos pommes de terre chaque année seront malades, elles auront les mêmes maladies. Alors, souvent, on se dit, pour simplifier les choses, plantons des légumes feuilles sur des légumes fruits et on alterne comme ça tous les 3-4 ans, ce qu'on appelle la rotation des cultures. Et puis aussi, il faut, comme nous, avoir un peu de repos, un peu de vacances et dans le potager. Parfois, il ne faut rien planter.
Merci Philippe Collignon. Or, Nathalie Hélal, on a évoqué tout à l'heure la figue. Un autre fruit de saison, c'est le raisin, cher à Guillemette Odissimo.
Mais elle dépend sous quelle bouteille, c'est ça?
Ça dépend sous quelle forme, oui, effectivement.
Vous avez compris le sous-entendu?
Non, mais sous la forme de la caillou raisin.
Tout de suite,
voilà.
Dès la rentrée.
Ah, la caillou raisin. Voilà. Ça, c'est ma madeleine, ça.
Alors, d'où vient le raisin, Nathalie?
On ne sait pas trop, mais on pense que ça pourrait être la mer Caspienne, figurez-vous. Alors, le raisin, c'est vrai que c'est un des fruits les plus anciens et puis les plus répandus dans le monde, qui existe depuis des milliers d'années, parce qu'on a même trouvé des dessins de raisins dans des tombes égyptiennes qui indiquent qu'on le cultivait en 2375 avant Jésus-Christ. Et il paraît qu'en Chine, eh bien, la culture du raisin est même plus ancienne que cela. Alors, c'est vrai qu'on pense beaucoup flacons, quilles, bouteilles, n'est-ce pas, Guillemette? Et puis les autres. autres.
C'est reparti.
Mais on oublie souvent l'importance du raisin de table. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une culture du raisin de table, y compris en France. Je pense, par exemple, au raisin de Fontainebleau, le raisin doré de Thomery et de Fontainebleau. C'est près de chez vous, Ali, hein, vous connaissez bien maintenant. C'est une culture en espalier qui s'est développée au XVIIIe siècle et qui a donné de merveilleux raisins de table. C'était un luxe autrefois.
Comment on choisit son raisin ?
Alors, le raisin, il faut que les grains soient fermes, soient intacts, soient bien colorés et solidement attachés à la grappe. Les raisins blancs, ils sont plus sucrés s'ils ont des teintes jaunâtres. Alors, regardez bien les 50 nuances de jaune de vos raisins. Et puis, il faut absolument éviter les raisins mous, qui sont ridés, qui sont tachés ou qui sont blanchis à l'extrémité qui les rattache à la tige, parce que ça veut dire un manque de fraîcheur.
Alors, certains achètent du raisin, non pas pour cuisiner une bonne caille au raisin, mais pour faire des détails.
Oui, la fameuse cure Uval,
alors,
cure de raisin.
Est-ce que ça a vraiment une efficacité, cette cure de raisin ? J'en entends souvent parler.
Écoutez, moi je n'ai pas testé, ça ne me branche pas, excusez-moi. Je pense qu'il faut surtout être très préparé, parce qu'on ne fait pas une cure de raisin comme ça. Il faut que l'organisme s'habitue progressivement avant la cure, et surtout au retour de la cure, parce que vous réintégrez des solides. Et puis le raisin, c'est très calorique, hein. Attention, hein, vous ne mourrez pas de faim avec la cure Uval, hein. Ça, tranquillisez-vous.
Alors, Guillemette Odissino, je connais la réponse, hein, mais vous préférez plutôt une cure de raisin ou déguster une caille au raisin ?
Bon, enfin, franchement.
Mais oui, je sais, je fais exprès.
Parce que,
non, mais c'est juste, non, mais c'est juste une transition.
Non, mais
pour que
la question était tellement folle que j'ai cru qu'il y avait un piège.
Pour que Nathalie Hillal nous propose une recette de caille au raisin.
Dans ma grande bonté. Ouais. Alors, une toute petite recette de caille au raisin vraiment express. On l'a fait en 10 minutes, c'est pour vous dire. Mm-hmm. Vous prenez des cailles, vous prenez des raisins blancs, des gros raisins blancs, d'accord, oui, des gros grains de raisins blancs. Vous prenez du lard fumé, vous coupez le lard fumé en petits dés, vous faites revenir vos petites cailles dans un mélange d'huile et de beurre avec vos petits lardons fumés. Vous rajoutez vos grappes de raisin, évidemment, égrenées, évidemment. Vous rajoutez surtout pas d'eau parce que ça va bien cuire comme ça. Sel, muscade râpée, ça c'est important. Pas de poivre, le poivre tout à la fin. Tout ça cuit gentiment en cocotte pendant à peu près 30 minutes. Vous servez avec ce que vous voulez, du riz, des chips, ce que vous voulez. Oui, des chips, je sais, c'est pas orthodoxe. Pourquoi pas ? C'est délicieux, c'est addictif.
De la semoule de couscous, c'est
pourquoi
bon.
Pas ? Pourquoi pas ? Allons-y, Guillemette. Et puis on arrose.
Guillemette, je sens que vous allez faire une cure de caille au raisin.
Je vais faire une cure de tarte au mur, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, en fait.
Allez, dans quelques instants, on file au Mercantour et en Anjou avec Gavin Clément-Ruiz du Routard. Et on s'intéressera aussi à la déco vintage avec Charlotte Cadet de Selency. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible. Que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair. Ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. Sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille. Le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras.
Stéphane Escher, interprété Si tu veux que je chante.
Tu trouves pas que cette assiette irait bien sur Madame Rose?
Oui, c'est vrai.
Excusez-moi, c'est combien cette assiette?
Grand bien vous fasse.
15 euros l'assiette. Ah, c'est cher.
Bah non, c'est pas cher.
Ah si, c'est cher.
Sur France Inter.
Et oui, on parlera de brocante vintage dans un instant. 10h41 et une émission consacrée ce matin à la maison et aux loisirs. Vos questions à tous nos experts au 01 45 24 7000. Tiens, pour vous, Stéphanie et Lal, Nachida qui nous dit... Non, mais Nachida, c'est notre auditrice. Le figuier me ramène à l'enfance dans le jardin de mes grands-parents où il y en avait plusieurs. Pour moi, la figue est synonyme de paradis, de miel, de vacances, de fin de l'été. Mon grand-père les cueillait le matin très tôt. La tarte aux figues, pour moi, c'est avec une pâte très fine et caramélisée avec des noix ou une boule de glace à la vanille. Mais ce que je préfère, c'est manger deux ou trois figues le matin à jeun. Et sinon, elle nous donne un conseil, Nachida, pour le lait blanc qui apparaît lorsque l'on cueille une figue pas encore mûre. Bah, si vous avez une verrue, vous en mettez une ou deux gouttes dessus et elle disparaîtra quelques jours plus tard. Elle l'a testé. Je sais pas, on verra. En tout cas, vous avez pas de verrue, vous, Gavin Clément Cruyff.
Pas visible, en tout cas.
Ah ouais, c'est
Il y a Kelly Douane qui
sans transition.
Kelly Douane marche très très bien pour la verrue. C'est une petite plante à fleurs jaunes qui pousse dans les murs.
Redites-le, Philippe Collignon, vous apporte
Kelly Douane pour la verrue.
Philippe Collignon, spécialiste des jardins. Gavin Clément Cruyff du Routard.
Alors, sans verrue.
On part en septembre en Anjou. Ouais. Et dans le Mercantour, ouais. Et on commence par le Mercantour. D'abord, où ça se trouve, le parc national du Mercantour?
Alors, on est dans le sud de la France, on est en région Côte d'Azur, une région qui est chère à ma voisine Guillemette. C'est sur deux départements, c'est les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Et puis, j'ai envie de dire bon anniversaire au parc du Mercantour, qui a 40 ans cette année. Donc, ça se fête, c'est l'occasion. On est avec Menton et Nice au sud, Barcelonnette au nord-ouest et à la frontière avec l'Italie du côté est. Le Mercantour, c'est 679 km² de surface et qui exclut toute présence humaine permanente. Ça, c'est assez intéressant de le savoir. C'est une riche biodiversité. Il y a 40 espèces de plantes endémiques. Alors, c'est là où on va pouvoir découvrir, j'aime beaucoup cet animal, le gypaète barbu. Je ne sais pas si vous voyez...
C'est un rapace.
C'est un rapace. C'est l'ancêtre du griffon. Et il a vraiment la petite barbichette, là, comme ça, vous le verrez. Il y en a beaucoup en ce moment. J'ai reçu des photos ce matin. Il y a des bouquetins. Il y a des chamois.
C'est un petit barbichette.
Il y a des aigles aussi royaux qui vont être là. Et il y a des loups, si vous voulez. Alors, si vous voulez vraiment vous spécialiser sur le loup, il y a un endroit que j'aime beaucoup, c'est le parc Alpha. Mm-hmm. C'est dans le parc du Mercantour, c'est près du lac de Boréon. C'est un centre pédagogique, vous allez tout savoir sur le fameux canidé. Et vous pourrez voir qu'il est fascinant et qu'il est peut-être pas aussi... c'est un prédateur, certes, mais qu'on peut comprendre de multiples façons. Donc c'est au parc Alpha, dans le Mercantour.
Il y a un village que vous nous conseillez, peut-être, dans le Mercantour?
Oui, alors là, vous allez vous prendre pour le roi du monde. Ça s'appelle le bien nommé village du Belvédère. Le Belvédère, c'est un beau village perché. Il y a des belles maisons avec des façades ocre. Et vous avez une vue plongeante sur la vallée de la Vésubie, de la Gordola. C'est absolument magnifique.
On part en Anjou. Pourquoi l'Anjou?
L'Anjou, bah parce que j'aime bien l'Anjou.
L'Anjou, ça, il y a de la vigne.
Parce que c'est un condensé assez intéressant. On va pouvoir aller au musée du textile et de la mode, par exemple à Cholet. C'est le renouveau du tourisme industriel. On a envie d'aller visiter ces anciennes usines, et celle-ci marche encore. On va pouvoir s'acheter un joli petit mouchoir réalisé sur place avec l'atelier en activité, le métier à tisser. C'est aussi des jardins sublimes. Il y a le jardin de Molévrier, vous n'allez pas me contredire.
Un jardin asiatique magnifique.
Voilà, c'est le plus grand jardin japonais d'Europe.
Où ça,
alors, c'est le jardin de Molévrier, c'est près de Cholet. Et alors, c'est vraiment très joli. Alors, là, c'est plutôt vous, Philippe, qui allez me dire, mais on a 500 essences, il y a des arbres taillés en nuages, en transparence, en moutonnement, c'est vraiment...
Et à côté, il y a le potager Colbert, qui vient d'avoir un prix aussi, qui est magnifique. Il y a plein de jardins à voir dans cette région.
C'est un rêve oriental en plein milieu du...
Et l'Anjou, c'est aussi le pays des châteaux.
Oui, c'est les châteaux. Là, vous avez le château de Beaugers en Anjou. Là, on est à 40 km au nord-est d'Angers. Là, vous avez une voûte spectaculaire dite en palmier. On a l'impression d'être sous un parasol en pierre. Et surtout, il y a l'apothicairerie, c'est pas facile à dire, qui se trouve à 5 minutes du château de Beaugers en Anjou. C'est une des plus rares de France. Elle date de 775. Et là, vous avez, c'est assez amusant, il y a plein de bocaux tout autour de vous. On a l'impression d'être dans une boutique d'alchimiste. C'est sublime. Et surtout, vous pouvez encore trouver de la poudre de doigts de momie ou des doigts de
cloporte, c'est assez, assez intéressant.
On trouve des simples là-bas.
On trouve des simples. C'est le passage génial entre l'alchimie et la vraie pharmacie. Ça, c'est assez intéressant. C'était les bonnes sœurs qui cultivaient dans le jardin de l'apothicairerie du château de Baugé en Anjou.
Un mot sur le village du Toureil.
Ah oui, le Toureil, c'est Toureil. Un village d'Anjou. On est au bord de la Loire. Si vous avez envie de finir l'été en beauté, vous allez à la route de Sel. C'est le nom du village. Et vous allez dans le jardin. Vous êtes au bord de l'eau. Il y a un esprit guinguette. Il y a des petits lampes. Il y a les tables au milieu, vous allez manger une anguille, vous allez manger du brochet, de la perche. Oui. Pour finir l'été en beauté, c'est parfait.
Merci beaucoup Gavin Clément-Ruiz. Alors Philippe Collignon, septembre, on peut faire un tour au Festival International des Jardins dans le domaine de Chaumont-sur-Loire. Et vous avez créé un jardin très mystérieux. Je ne l'ai pas vu en vrai, je l'ai vu en photo.
Oui, chaque année, c'est la 38e édition, ouais. Donc parrainée par Chantal Collot-Dumont qui est la conservatrice. Et cette année, elle a dit, bah, tiens, on va faire un truc sur le paradis. Et donc, on a fait un jardin qui s'appelle Éden. Il y a une vingtaine de jardins avec des paysagistes du monde entier. Éden, c'est un jardin qui à la fois est un jardin que l'on peut visiter comme ça, mais c'est aussi la vie après la mort. Qu'est-ce qui peut se passer après notre vie sur Terre? Eh bien, vous allez dans le jardin et vous allez comprendre.
Et c'est donc le Festival International des Jardins dans le domaine de Chaumont-sur-Loire. Alors la brocante, c'est tendance, nous dit la une du Figaro magazine de ce week-end. La brocante est plus que jamais à la mode, portée par une tendance de fond qui valorise les objets et meubles vintage. Bonjour Charlotte Cadet.
Bonjour Ali.
Vous avez cofondé le site de brocante en ligne Selency et vous publiez chez Marabout, il n'y a pas d'âge pour le vintage. Alors quoi, vous avez classé une centaine d'objets de décoration et de meubles, c'est ça?
Alors c'est ça, absolument. Dans ce livre, on a fait le choix de parler d'objets, mais aussi de style, d'époque, de designer. En fait, un petit peu un condensé de ce qui nous plaît. Ça prétend pas du tout être exhaustif, mais en tout cas, une petite histoire sur chacun de ces objets et des mises en situation.
En tout cas, les mises en situation sont très jolies, les textes sont assez drôles, c'est très pédagogique. Vous l'avez lu, vous, Guillemette Audissimo?
Ah, de A à Z, c'est le cas de le dire. Enfin non, de A à W, parce qu'il n'y a pas de Z. Voilà, c'est ça. les bouquins de décoration, les bouquins de meubles, d'ameublement. Franchement, c'est pas toujours très très marrant. Hein. Et là,
c'est très drôle.
C'est très drôle, c'est très frais, c'est pratique, mais sans devenir trop vulgaire. Et les photos sont magnifiques. Ça donne déjà, ne serait-ce que les photos, des envies et des idées de déco. Par exemple, là, je suis sur la page desserte. J'adore ce meuble. Je trouve qu'effectivement, vous dites que c'est un classique, je suis assez contente. La desserte, c'est un truc de dingue avec les petits trous. On peut s'en servir vraiment pratiquement de manière stable en mettant des tonnes de trucs dessus, des bouquets, des fleurs séchées, des objets de décoration, ou évidemment son but premier, c'est-à-dire de trimballer les choses qui se mangent, n'est-ce pas Nathalie, d'une pièce à l'autre. Et la photo est extraordinaire, par exemple.
D'ailleurs, Charlotte Cadet, vous décernez à la desserte la médaille d'or déco à un meuble.
Oui.
Pourquoi vous aimez les desserts aussi?
Non, on aime les desserts parce qu'en fait, elles ont un côté qui est à la fois effectivement assez léger. C'est un meuble qui est assez léger, qui peut se caler dans n'importe quel petit coin. Mais c'est aussi un meuble qui est extrêmement pratique. Alors quand il a la double fonction, à la fois ce côté esthétique, fin, passe-partout et pratique, on considère que c'est un must.
Comment vous expliquez le succès des objets vintage? Et on peut rappeler peut-être en deux mots ce qu'est le vintage?
Alors le vintage, bon, c'est un mot qui est assez galvaudé, ouais. Parce qu'en réalité, il s'adresse, enfin pour parler, quand on parle du vintage, on parle plutôt des années 50-60. Maintenant, de manière assez générale en France, on parle du vintage pour parler de l'ancien. Bon, voilà, du coup, si on veut être très précis, le vintage s'adresse uniquement à une période. Mais on peut le prendre pour parler de l'ancien. Pourquoi il y a un attrait aussi fort sur le vintage? Je pense qu'il y a plein de raisons. D'abord, parce qu'on a beaucoup, on s'est énormément concentré sur ces dernières années sur des meubles très standardisés, etc. Il y a un retour, l'envie d'avoir quelque chose de très personnel, des meubles originaux, des meubles uniques. Donc je pense que le vintage porte ça. Il y a plein de raisons. La deuxième, je pense que c'est peut-être l'histoire que portent ces meubles. Et en fait, il y a plein de gens qui vont chercher ces meubles pour l'histoire qu'ils racontent et qu'ils transmettent.
Et puis confronté, je pense, à une société de plus en plus anxiogène, certains trouvent du réconfort dans absolument. Le monde rassurant du vintage.
Ouais, absolument. Je pense qu'on vient chercher effectivement. En fait, on se raccroche à l'histoire, donc on se raccroche à son passé, on se raccroche au passé que ce soit que celui qu'on a vécu ou celui de notre pays ou que d'autres gens ont vécu. Et c'est assez marrant.
Alors là, c'est la minute démagogique. votre livre s'adresse peut-être aux bobos à fort pouvoir d'achat qui cherchent à tout prix à se distinguer grâce à la déco. Le style que vous défendez regardez, bah, c'est le style du moment des bobos aisés des grandes villes. Voilà, la minute des magots est terminée. Charlotte Cadet.
Alors, non, je pense pas qu'on défende un style.
Je me fais l'avocat du diable parce que j'aime beaucoup votre livre. Mais
non, mais c'est intéressant comme retour. Je pense qu'en fait, on défend pas un style. D'ailleurs, on a plusieurs styles qui sont présentés sur le site. On en a 7. Je vais pas tous les citer. Et on a des prix et des produits qui balayent à la fois tous les styles, mais c'est effectivement tous les budgets. Ça va de 1 euro à plusieurs milliers d'euros. Donc, il y en a pour toutes les bourses et effectivement pour tous les goûts aussi. Donc, je pense que voilà, après, on a nos avis, on a nos goûts aussi et on va promouvoir un petit peu ce qui nous plaît. Mais on essaye de pousser un peu de variété.
Guillemette Odissino.
Je me demandais si cette mode du vintage, enfin cette tendresse en fait pour les meubles vintage, ça venait pas aussi du fait qu'on a tous perdu des maisons d'enfance, qu'on habite tous dans des endroits de plus en plus petits, qu'on a dû vendre. Non, mais on a dû vendre l'armoire de grand-mère à une époque et maintenant on regrette de ne plus avoir l'armoire de grand-mère. Du coup, on va acheter l'armoire d'une autre grand-mère en fait sur votre site. Mm. C'est-à-dire, ce qui est drôle, c'est qu'on se refait un passé avec le passé des autres.
Mm. Charlotte Cadet.
Oui, absolument. On se fait un passé avec le passé des autres en se réappropriant un objet, parfois en le transformant aussi. C'est un peu ça l'art du vintage et la beauté du vintage. Et je pense que la vraie force aussi, pour rebondir sur pourquoi le retour au vintage, je pense qu'il y a aussi, ça ne perd jamais de valeur. Je rebondis aussi sur le commentaire de cette dame. En fait, en achetant du vintage, c'est pas comme quand j'achète une table d'un géant industriel, quel qu'il soit, et en fait, elle va tout de suite perdre en valeur le jour d'après. En fait, en achetant du vintage, c'est un peu comme le bon vin, pour faire un peu le parallèle avec le raisin tout à l'heure, c'est que ça fructifie et ça s'embellit dans le temps et ça prend de la valeur.
Allez, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
Bangla noise on Brick Lane, that's the sound of my home. I'm a Mickey Athens, lovers walk or Kent Road. When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke. Holding down 9 to 5, and your weekends are spent loading up with the boys, with the bottle and Benz. Only way to cope, cause this city don't stop for no one. Down Madeira I go. I've been fooled by the charm of the Kennington Road. While the backstreet drama don't get picked up by the sun. That's what makes London mine.
Joy Crooks interprétait London Mine.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h55 et une émission consacrée ce matin à la maison et aux loisirs. On s'intéresse à quelques objets vintage pour terminer cette émission, tirée du livre « Il n'y a pas d'âge pour le vintage » de Charlotte Cadet. Pourquoi le fauteuil crapaud est-il revenu à la mode? Décrivez-le peut-être, Charlotte, pour ceux qui ne le visualisent pas, ce fauteuil, comme vous le dites dans votre livre, franchouillard, bien reposant.
Alors le fauteuil crapaud, c'est un fauteuil, une assise qui est assez basse, qui présente des accoudoirs relativement fins, bien souvent frangés, et on l'aime d'ailleurs quand il présente des franges en bas, pour recouvrir ses pieds et cacher un petit peu ses pieds. Il est très souvent recouvert de velours, dans différentes teintes. Et je dois dire qu'il est assez confortable, c'est un petit fauteuil, mais assez confortable. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il est revenu à la mode? Je pense que c'est son côté vraiment très très rétro, quoi. La frange, on la retrouve un petit peu dans plein d'objets maison, que ce soit dans les luminaires, etc. Je pense que c'est ça qui a pas mal attiré.
Et ce fauteuil crapaud, il apparaît au 19e siècle sous le règne de Louis-Philippe. Alors la table de ferme est très prisée en ce moment, à des prix astronomiques parfois. Charlotte Cadet, pourquoi ce retour de la table de ferme?
Alors je pense que la table de ferme dégage tout ce qu'il y a de plus convivial, de plus chaleureux. D'une part parce qu'elle est en bois souvent très patinée. Et en fait, la table de ferme est bien souvent, ce qui est le plus sympa, c'est d'en acheter des grandes pour pouvoir faire des grandes tablées. Et effectivement, je pense ce retour dont on parlait tout à l'heure, ce retour à l'ancien, ce retour à quelque chose d'authentique, à quelque chose de vrai, quelque chose qui nous rassure. Je pense qu'en fait, la table de ferme, elle rassemble tout ça, elle réunit tout ça.
Et à des prix astronomiques parfois.
Effectivement. Donc il faut faire attention, il faut prendre le temps de trouver la bonne, regarder les dimensions dont on a besoin et puis attendre le coup de cœur qui répond à son budget.
Alors vous, Charlotte Cadet, vous aimez beaucoup, beaucoup les portraits à l'huile.
Oui.
J'ai ouvert la page. Hein.
Une passion pour les portraits
Pourquoi
à l'huile, absolument.
Expliquez-nous.
C'est d'ailleurs une photo de chez moi, ici, que vous avez sur ce livre. En fait, les portraits à l'huile, je sais pas, il y a un côté désuet, peut-être presque, du portrait à l'huile, qui me plaît beaucoup. Et l'idée, en fait, de s'inventer, parce que parfois on ne connaît pas les personnes qui sont représentées sur ces portraits, imaginer l'histoire de ces personnages, ça me fascine, j'aime bien.
Moi, j'en ai acheté un récemment, c'est l'homme aux roues flaquettes. Ça date certainement de la fin du 19e siècle, et c'est vrai que j'imagine une histoire à ce monsieur avec des rouflaquettes.
On s'invente des ancêtres. Puis ils ont tous des moustaches, des barbes, des rouflaquettes. Ils ressemblent tous à Clémenceau.
Chapeau de formalie, on y est.
Les meubles de métier ont beaucoup de succès également. C'est pour se distinguer de la standardisation de la célèbre enseigne suédoise qui commence par Ic et qui finit par Ea.
Ouais, les meubles de métier, c'est un meuble qui permet de ranger beaucoup de choses. Le meuble de rangement au global est un enjeu pour les acheteurs de déco, pour les Français, mais plus globalement dans l'idée de se meubler. Voilà.
Nathalie Elal, la mouche du coche.
Ouais, 30 secondes de mouche du coche pour vous dire que simplement certaines communautés Emmaüs déplorent que des hordes de bobos antiquaires ou d'antiquaires bobos, comme vous voudrez au choix, se précipitent pour dévaliser à bas prix et revendre ensuite x3, x4, x5, les meubles qu'ils ont chinés chez eux, meubles et objets, d'ailleurs. J'ai été témoin cet été, d'ailleurs.
C'est l'art de la Chine. Il faut arriver le premier. Il faut se lever tôt, dit-on, pour chiner, pour déballer, démasquer les beaux objets dans les brocantes. Et c'est effectivement nous ce que l'on propose sur Célensi de retrouver tous ces objets sans perdre du temps et sans y passer des heures.
Alors vous avez cité Célensi, on peut aussi citer eBay, Le Bon Coin, et Delcamp. Merci beaucoup, Charlotte Cadet. Il n'y a pas d'âge pour le vintage.
Merci.
C'est publié chez Marabout. Merci beaucoup, Nathalie Elal, Philippe Collignon et Gavin Clement Ruiz pour cette première Grand Mais Vous Fasse Loisir. Merci à Muriel Pérez pour sa programmation musicale absolument impeccable, aux standardistes de France Inter et à la documentation de Radio France. Je sais pas si Guillemette écoutera, mais nous allons vous aider à arrêter de fumer. Si vous le souhaitez, nous recevrons un addictologue et un tabacologue. Toutes vos questions sur l'arrêt du tabac au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Vous serez là à l'écoute, j'espère.
J'écouterai Ali, pour le reste, je ne vous promets rien.
Allez, belle journée à l'écoute de France Inter. Il est 11h.